Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeux, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. On parle des jeux du moment, de l'actualité, de l'industrie, de ce qui se passe au niveau du matériel, sur PC, sur console, sur mobile. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, on va vous parler de nos jeux du moment. On a Boyfriend Dungeon, The Great Ace Attorney, Back 4 Blood en bêta, Marvel's Avengers, The War for Wakanda. Est-ce que ça remonte le niveau? On va voir. On a aussi Dodgeball Academia et plein d'autres choses. On va aussi parler de Intel Arc, Intel qui se lance dans le domaine des vraies cartes graphiques, du Pokémon Presents et de plein d'autres choses. C'est l'épisode numéro 199. Nous sommes en août 2021 et j'ai l'immense plaisir d'être avec mon meilleur ami de tous les temps, Daniel Charby. Comment vas-tu, Dani, après ton meeting très sérieux avec des gens sérieux qui nous a fait décaler l'enregistrement sur Twitch à 12h30 au lieu de midi le jeudi, comme toujours.
Ouais, tu dois mourir de faim en plus.
Non, mais je mange avant, moi.
Tu manges avec les poules.
Mais complètement. Mais tu sais que mon fils étant à la crèche et on est à la campagne, c'est des horaires d'agriculteurs et les agriculteurs se lèvent tôt, donc mettent leurs enfants à la crèche tôt et donc il va à la crèche tôt et donc il se lève tôt et on prend le petit déjeuner tôt. Donc moi à 11h, je crève la dalle. Et comme on a une heure de décalage en plus avec la France, on est une heure plus tard, je mange à 11h, 11h30 et je suis prêt à 1h, heure de Helsinki, midi, heure de Paris pour faire l'émission. Maintenant, vous savez.
C'est fantastique. Oh là là là. T'envoies du rêve. Mais ça va bien et je suis super content d'être ici. On s'est parlé au téléphone il n'y a pas si longtemps. Mais ça fait quand même toujours très plaisir de te parler. Ce qui manque un peu, en fait, tu vois, avec l'éloignement, l'âge, la distance et le Covid, finalement, on ne s'est pas vu depuis super longtemps. C'est super cool d'enregistrer les podcasts, mais ça ne remplace pas l'IRL.
C'est vrai, mais au moins on peut parler de nos passions et de jeux vidéo. Et dans la chatroom, on nous suggérait pour l'épisode 200 de faire un event célébratoire où on jouerait à Street Fighter. Je suggérais Street Fighter 5 et toi tu disais Street Fighter 2 ou rien parce que tu as peur, on le sent, tu as peur de ma puissance Street Fightesque. Peut-être qu'on fera ça la semaine prochaine, je ne sais pas si tu auras le temps, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais on y réfléchit. Avant de se lancer, je remercie les auditeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon. Nuageau, BHS, Amaury Barbet, Bruno Sbille et Nicolas Simon sont les patriotes du jour. Et le producteur qui permet à cette émission encore plus que les autres d'exister, c'est Claude Girel. Il a été sur patreon.com/rdvjeux et il a trouvé le niveau secret producteur qui fait qu'on le cite chaque mois. Merci beaucoup à toi, Claude, et merci à tous ceux qui soutiennent l'émission. C'est grâce à vous qu'on peut faire ce qu'on fait. Et Dieu sait que c'est important, hein. Il se passe des choses dans le monde, mais parler de jeux vidéo, ça, c'est vraiment important. Bon, je dis ça, mais c'est vrai que c'est important de se détendre un petit peu de temps en temps. Et on a une série de jeux super cool dont on va parler aujourd'hui, et notamment... des jeux qui sont sur le Game Pass, que j'ai pu essayer, que je n'aurais pas forcément essayé autrement. Mais celui qui m'a le plus marqué, avec lequel on va ouvrir, c'est Boyfriend Dungeon. Est-ce que tu as entendu parler de Boyfriend Dungeon, Dani ?
Rapidement, mais je serais ravi d'entendre en fait le résumé de ton expérience et ton point de vue dessus. Ouais, le pitch, en deux secondes.
Écoute, Boyfriend Dungeon, c'est un jeu dont on entend parler depuis un bon moment, hein, qui est un jeu... qui est un mélange entre, on va dire, du dating sim et du dungeon crawling. Et ça a l'air d'être un petit peu étrange comme idée, parce que on va aller dans des donjons et on va trouver des armes, des épées, qui sont en fait des personnes qui sont, qui peuvent se transformer en épée. Et c'est vraiment juste complètement naturel dans ce monde-là. Et une épée peut se transformer en personne. Et c'est hyper bizarre comme idée, mais dans le jeu, ça fonctionne vraiment très bien. Et c'est géré en deux parties. D'une part, la partie donjon, où on va aller avec nos épées explorer les donjons et combattre comme on le ferait dans un Diablo-like classique, qui n'est pas le meilleur jeu de ce type, mais qui n'est pas non plus mauvais. Franchement, c'est sympa, ça fonctionne pas mal au niveau gameplay. Et donc, de l'autre côté, on a aussi la partie dating sim, où ces armes qu'on a trouvées dans un donjon ou ailleurs, on peut aller en date et essayer de les séduire. Et ils sont vraiment, ils agissent comme des armes de temps en temps et comme des personnes de temps en temps. Et on est dans un dating sim qui est super, super bien fait, super sympa, et qui n'est pas vraiment, comment dire, qui n'est pas trop... qui n'est pas trop compliqué, qui n'est pas trop engageant comme dating sim. C'est un dating sim, j'ai l'impression, qui s'adresse aux gens qui ne sont pas habitués au dating sim, justement parce que, d'une part, il est assez approchable, facile d'accès, mais surtout, il y a toute cette partie donjon qui fait que ce n'est pas juste un dating sim. Un jeu comme Dream Daddy, par exemple, qui était vraiment juste une sorte de nouvelle à lire, là, on a ces petites parties qui sont sympas, et puis quand on en a marre, on retourne dans les donjons et il y a une partie action. Donc, c'est un petit peu, je trouve, le dating sim pour les gens qui n'aiment pas forcément les dating sims. Mais au-delà de ça, il y a une chose qui est, je pense, hyper importante, c'est que le jeu est conçu par une petite équipe, hein, c'est un jeu indé évidemment, avec, on le note parce que c'est, je crois, notable, il y a une femme qui est à la tête du jeu, et on a vraiment une approche du truc qui est très différente de ce qu'on voit généralement, qui est hyper bienveillante à un point qu'on ne n'imagine pas. C'est-à-dire que il y a, je vais vous donner un exemple, mais il y a des avertissements avant le début du jeu, quand on le lance. Et par exemple, il va vous dire, il y a un personnage qui s'appelle Maman, il va vous envoyer des messages. Est-ce que ça vous va ? Et c'est le genre de truc auquel on ne pense pas forcément. Mais on a souvent entendu des histoires de personnes qui se souviennent de la mort de leurs parents le jour de la fête de trucs parce que Facebook leur envoie un message. « Ah, vous vous souvenez de cette photo ?» Et c'est un peu traumatique, ce genre de truc. Et là, donc, ils prennent les devants et vous disent « Est-ce que ça va ?» Ok, très bien, vous pouvez ou vous pouvez ne pas le faire. Puis, il y a un avertissement qui a fait quelques vagues sur Internet, mais c'est pas le sujet ici, mais un avertissement sur il y a des moments difficiles de harcèlement ou d'avance non désirée. Est-ce que ça vous va aussi ? Faites attention, ce genre de choses. Et le personnage principal est non genré, donc on peut choisir de le faire comme on veut. Évidemment, il y a il s'appelle Boyfriend Dungeon d'ailleurs, mais il y a aussi des femmes qu'on peut dater dans le donjon. C'est partout dans les trailers, donc c'est pas non plus un gros spoiler. Et tout ça, ça fait que ça en fait une expérience assez unique, assez... Vraiment, j'ai jamais vu ça avant, même si, comme je disais, j'ai vu des dating simulators et j'ai joué à certains qui étaient sympas. Là, ça en fait une expérience encore plus... Je sais pas, encore plus cool, bienveillante. Il y a des choses comme, par exemple, le fait de... quand on dit un dating simulator, tu dis « Ah merde, il va falloir que je cherche, que je réussisse à tomber amoureux de la personne pour réussir au jeu, machin. » Et là, les personnages te disent tout le temps « Si tu veux juste rester pote, il n'y a pas de souci, n'hésite pas, tu vois, t'es pas obligé, no pressure, etc. » Et donc, même dans le jeu, quand t'es en train de jouer, tu te dis « Ok, bon, pas de pression, je ne suis pas obligé de réussir à trouver les bons cadeaux à donner, les bonnes options de dialogue à faire, machin, pour optimiser mon truc. » Et t'as aucune pression dans le jeu, même si, là encore, il y a une synergie qui est vraiment bien conçue avec la partie action, parce que quand tu réussis à monter de niveau d'amour avec les armes, qui sont aussi des personnes avec lesquelles tu as des rendez-vous romantiques, bah, quand tu réussis à monter de niveau, eh ben, ça te donne des capacités supplémentaires avec cette arme-là, parce que tu choisis quelle arme tu vas utiliser dans ton run, et tu peux changer à chaque étage. Et ça te donne des capacités supplémentaires qui peuvent devenir vraiment cool à utiliser. Et donc, ça a une synergie qui est sympa, et le tout fonctionne vraiment. Et il y a même une expérience dont je vais parler pour dire à quel point ça peut avoir de la valeur, ce genre de choses. Il y a un personnage qui est un peu, et je suis encore au début, hein, je vais jouer quelques heures, mais j'ai pas vu une grosse partie du jeu, mais il y a un personnage qui est insistant. Et qui, en fait, qui, même quand vous l'envoyez chier, eh ben, il continue à vous contacter, ça passe beaucoup par le téléphone et les SMS. Et même quand vous l'envoyez chier, il est mal poli, c'est pas un énorme, à ce stade en tout cas, c'est pas un énorme harceleur, mais c'est juste, il dit des trucs pas cool. Et donc tu dis, oh, bon, on va te faire voir, quoi, ou va te faire foutre, ou non, c'est toi le loser. Et il n'arrête pas. Et il continue à vous envoyer des messages, et franchement, rien que ce truc, dans un jeu vidéo, sans aucune pression, eh ben, ça m'a mis un peu mal à l'aise. Et je me disais, mais c'est bon, quoi, ça va, lâche-moi. Et c'est incroyable comme cette petite chose minuscule peut faire ressentir une petite fraction minuscule de ce que j'imagine beaucoup de femmes et la plupart des femmes ressentent dans leur vie quotidienne, alors que on en entend parler souvent, on entend toujours parler de ce genre de problème, et toutes les femmes en parlent tout le temps. Et là, rien que le fait de le voir dans un jeu en virtuel avec aucune pression et aucun enjeu, eh ben c'est quand même... non mais c'est bon, ça va. Et ça m'a mis mal à l'aise, ça m'a énervé. Et donc ça a cette valeur aussi de montrer certaines choses de ce type-là, parce que tous les personnages ont un truc, un secret, ou un truc qui est un peu bizarre, et c'est vraiment, c'est pas juste, oh, on va aller faire des dates et ça va être super cool. Il y a des trucs intrigants, tu veux savoir ce qui se passe avec ce type-là ou cette nana-là et ce genre de choses. Donc, franchement, en tant que package, c'est un truc que j'ai jamais vu avant et qui fonctionne super bien. Moi, je suis vraiment, vraiment séduit. J'aimerais avoir plus de temps pour y jouer plus, mais déjà, je suis hyper séduit par ce que j'ai fait et j'ai envie d'en faire beaucoup plus. Donc, Boyfriend Dungeon, et il est sur le Game Pass en plus d'être disponible un petit peu partout.
Ça m'a donné envie d'y jouer, en fait. Je l'essaierais bien. Je regardais, en fait, pendant que tu en parlais. Il n'est pas encore sorti sur PlayStation, malheureusement, et c'est le support sur lequel j'aimerais jouer.
Bah, espérons qu'il arrive sur PlayStation. Il est sur le Game Pass. Je ne sais pas si c'est sur PC aussi. Mais je dirais que, certainement, si vous avez le Game Pass, mais même si vous ne l'avez pas, ça vaut le coup. Même si vous allez y jouer que quelques heures, ça vaut le coup pour voir de quoi il s'agit, je trouve. Je pense que c'est vraiment un truc intéressant. Donc voilà, c'est Boyfriend Dungeon et je l'aime beaucoup. Est-ce que tu peux, Dani, nous parler de Phoenix Wright, comment ça s'appelle, The Great Ace Attorney, qui est sorti il y a quelques semaines, je crois, qui est la version, c'est dans l'Angleterre victorienne, de Phoenix Wright. C'est un remake d'un jeu DS, c'est ça?
En fait, il y a deux... Ouais, il y a... Enfin, il y a un package qui est vendu, en fait, qui contient donc les trois, enfin le jeu d'origine qu'on a eu en Occident, qui est contemporain, et le jeu qui se passe dans l'époque victorienne, ou plutôt c'est l'ère Meiji en gros, hein, je pense à peu près, 1870, quelque chose comme ça, dans ces eaux-là.
Mais on n'est pas au Japon.
Si, ça se passe au Japon.
Ah d'accord, ok, je croyais que c'est pour ça que je disais l'ère victorienne, je croyais que c'était en Angleterre.
C'est non, mais alors par contre, en revanche, ce qui se passe, c'est que bon, je vais spoiler personne, hein, mais il y a une partie qui se passe au Japon avec un héros japonais et une autre partie avec un héros anglais, hein, qui s'appelle Sherlock Holmes. Donc
oui.
Voilà, bon, mais en gros, oui, ça se passe quand même dans l'univers de Phoenix Wright, plutôt orienté japonais. Et donc, pour ceux qui connaissent pas Phoenix Wright, comment est-ce qu'on pourrait décrire cet ovni?
C'est ouais, je pense que principal, tout le monde connaît, mais c'est un jeu d'enquête.
C'est un jeu d'enquête et de tribunal, d'avocat. Et l'enquête, elle est là.
Il y a une partie enquête où on doit aller dans des endroits et repérer des indices et ce genre de choses. Et puis, il y a une partie procès où on doit écouter les témoignages et convaincre le juge qu'on a trouvé la bonne chose et on doit contredire
les gens. Et utiliser les indices qu'on a trouvés dans les étapes d'avant. Et voilà. Et donc, ça fait un mélange. Enfin, c'est unique comme jeu. Personnellement, j'aime bien, je suis pas ultra fan, mais j'aime suffisamment pour avoir eu envie d'essayer justement la version dans l'ère victorienne. Et je trouve qu'elle apporte un cachet et un style très différent de l'ancien, enfin des autres, pardon, l'ancien, ils sont tous vieux. Et je pense que ça donne un petit côté aussi un peu exotique par rapport à ce que moi je connaissais d'il y a une quinzaine d'années sur DS. L'intérêt aussi là-dessus, c'est que finalement, il a été, je pense, bien remasterisé. Et donc, graphiquement, il est assez joli, il y a des animations sympas. La direction artistique, je la trouve franchement très, très chouette. Qui permet, en fait, à mon avis, d'en profiter un peu plus, surtout, tu vois, quand tu vois des personnages en kimono, tu vois un peu comment ça se passait, dans un imaginaire très débridé, les tribunaux à l'époque, etc., machin, c'est rigolo. Et t'as vraiment des mimiques totalement, totalement clichés qui sont assez fun et qui permettent de bien rentrer dans l'ambiance. Voilà, donc c'est un jeu assez rigolo. Moi, je préfère justement cette version... dans l'Angleterre victorienne, aux anciens. Mais bon, c'est peut-être parce que j'y ai pas rejoué aussi.
D'accord. Et donc, bon, mais à côté de ça, c'est Phoenix Wright, c'est du classique Phoenix Wright. J'imagine qu'il y a des petites mécaniques qui changent, mais c'est un bon retour. Léger, en gros, ouais. C'est un Phoenix Wright remasterisé digne de notre époque, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est un Phoenix Wright remasterisé digne de notre époque, avec justement, donc, comme tu disais, dans les anciens, Phoenix Wright, il allait faire les phases d'enquête avec son assistante. Je sais même plus si c'est son assistante ou pas. Et ensuite, il allait au tribunal. Là, c'est différent. Il y a vraiment des personnages qui sont distincts. T'as l'avocat japonais et Sherlock Holmes pour les phases d'enquête. Et voilà. Donc, c'est rigolo, c'est sympa, c'est léger. Ça se prend pas trop au sérieux. Voilà, il y a beaucoup beaucoup d'heures à jouer dans les deux versions du jeu pour les amateurs.
Et clairement, au niveau graphique, ça a l'air d'être tout à fait digne d'un jeu moderne. Donc,
il pallie pas de son âge. Hein. Il a été, je pense, complètement remasterisé. Je me souviens plus de à quoi ça ressemblait sur DS. J'en gardais un bon souvenir, mais là, honnêtement, sur une télé 4K, c'est nickel, hein, c'est très bien.
D'accord. Moi, j'ai testé la bêta de Back 4 Blood. Back 4 Blood, vous savez, c'est la suite non officielle de Left 4 Dead, développée par Turtle Rock, qui est le studio qui avait développé Left 4 Dead 1, après que Valve ait repris les rênes avec le 2. Et c'est vraiment... c'est intéressant parce que de toute la période où le jeu avait été annoncé, puis qu'on avait vu des trailers, etc., je me disais, bon... ça va, on connaît, on a déjà fait, on l'a déjà poncé, et puis ils le ressortent exactement comme il était à l'époque. Ça va pas marcher, quoi. Et en fait, comme on en entendait les premiers retours la semaine dernière, c'est exactement ça, mais ça marche. Alors, il y a des petites différences avec un système de cartes, en fait. On se fait un jeu de cartes. Avec différents bonus, et on va avoir des cartes qui vont sortir entre chaque niveau, qui vont nous donner des bonus, voire des malus, et qui vont changer un petit peu notre expérience. Et c'est sympa parce que ça, effectivement, ça transforme un petit peu l'expérience. Et puis, il y a aussi des énormes boss, un truc qui fait 3 étages, qui est bon, pas non plus. Ces deux ajouts sont très accessoires, c'est sympa, mais ça change pas. C'est pas ça qui va changer le jeu. Le jeu en lui-même reste très très proche de ce qu'on avait avec Left 4 Dead, et c'est ça qui est sympa. J'ai joué en difficulté normale, c'est un peu facile, donc je crois qu'il vaut mieux augmenter d'un coup la difficulté parce que sinon il n'y a pas beaucoup de challenge. Et ce qui est sympa dans ces jeux-là, c'est la tension, justement, quand on est presque mort, quand on n'a plus de munitions, etc. Mais oui, vraiment, c'est exactement la même chose, mais ça fonctionne. Alors, Je garantis pas que c'est un jeu auquel tout le monde va jouer pendant des mois et des mois, mais lui aussi est sur le Game Pass, ou sera sur le Game Pass quand il sort, c'est le 12 octobre, je crois. Et du coup, bon, ça sera pas sur, ça sera un jeu vraiment auquel on va passer, avec lequel on va passer de bons moments, parce que c'est exactement le même type de fun et ça fonctionne. Donc Back 4 Blood. Alors d'autant plus si vous avez des amis, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je joue toujours tout seul, mais évidemment, c'est le genre de truc qui est encore plus fun avec des amis. Peut-être qu'on se fera avec le Discord des parties si je réussis à trouver une demi-heure à un moment qui pourrait être marrante. Mais le mode multi, je l'ai pas vraiment testé. Je crois qu'il n'était pas dans la bêta d'ailleurs. Mais ouais, ça fonctionne vraiment bien. Donc en plus, il sera dans le Game Pass, donc pas de raison de pas le tester. Dani, tu as joué aussi à Cotton, c'est ça ?
Ouais, Cotton Reboot.
Alors, de quoi s'agit-il ?
Tu te souviens, bah, c'était un shooter, donc un shoot'em up dans les 90s, un shoot'em up en arcade, qui a été adapté aussi, je ne sais plus si c'était sur Mega Drive ou Super NES. Ouais.
Je m'en souviens très bien à l'époque. Je te dis ça, j'ai en fait j'en avais parlé parce que je m'en souvenais justement, c'est la petite sorcière sur son balai.
C'est ça.
Ouais.
Exactement. Qui hurle plein de trucs en japonais tout le temps en tirant sur les ennemis et on joue une sorte de méchant qui tue les gentils elfes, les fées, etc.
Ah ça, je m'en souvenais pas du tout. T'es une.
Je m'en souvenais plus trop non plus.
Ah d'accord. Donc Cotton, c'est une sorcière qui va aller tuer les gentils elfes et les fées.
Et pour aller chercher des bonbons. Alors j'ai skippé un peu l'histoire. Hein.
Tu veux dire que t'es pas au courant à fond du lore de Cotton. Je suis très déçu.
Non, ouais, je sais. Elle est allée chercher ses bonbons. Donc voilà. Et en gros, elle tape tout le monde pour aller chercher ses bonbons. Donc okay. En fait, le reboot est super chouette. Hein. Graphiquement, c'est très très beau. Le gameplay est fun, sympa, etc. Je pense que c'est un très bon jeu sur lequel on peut s'amuser une demi-heure. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un jeu d'arcade des 90s. Donc, c'est très difficile. Hein. À l'époque, tu vois, t'allais en salle d'arcade, tu mettais ta pièce de 1, 2, 3, 4, 5 euros, je ne me souviens plus à l'époque combien ça coûtait. Et en gros, la difficulté était là pour te faire payer autant de pognon que possible pour ensuite rentabiliser le jeu. Donc, la difficulté est la même, le jeu est sympa, mais elle est crédit limité. Ça veut dire que tu peux continuer autant que tu veux. Et comme c'est un jeu d'arcade, tous les jeux d'arcade à l'époque, ils se terminaient en maximum 20 minutes, une demi-heure, parce que sinon, c'était pas rentable. Et donc... l'adaptation est superbe, mais ça a ce travers-là. Donc, je pense que c'est un jeu super sympa pour jouer chez un ami, par exemple, sans l'acheter, ou alors en attendant une promotion, etc. Ouais. Parce que le reboot est vraiment chouette, mais oui, disons que faut pas mettre 30 ou 40 euros là-dedans. Hein, c'est à moins d'être un super fan du jeu.
Ça, hein. Non,
j'ai pas fait gaffe. Je l'ai pas payé, donc.
Ah, d'accord.
Okay. J'en sais rien, mais ouais.
Disons oui, je suis sûr qu'il est meilleur ouais. marché que ça, mais oui, d'accord. Donc tu.
Mais voilà.
Et donc, avec les continues illimitées, tu peux le finir relativement facilement, quoi.
J'avais lancé la popote, un dîner, un soir, etc. Je me dis, je vais vraiment vite tatouer, je joue à Cotton. J'ai eu le temps de le terminer pendant que ça cuisait, je l'ai fini, et ensuite, ça y est, c'était prêt.
Donc, d'accord.
Bon. Je vous donne un ordre de grandeur. Hein, et
okay.
Je ne suis pas du genre à faire de la cuisine trop sophistiquée, hein, donc c'est rapide, hein, c'est court, et on n'en parle plus. Hein, donc bon, voilà.
Bon, il faut, mais je suis sûr qu'il faut après le finir en plus rapide, enfin en plus difficile, et puis tu vois, c'est un jeu de scoring, ça. Bon, j'essaie.
C'est ça, c'est un jeu de scoring. Et
il y a un time attack. Pour les je vois dans le trailer.
Ouais, il y a un time attack, il y a un mode X68000 qui était la version d'origine avant qu'il sorte en arcade à l'époque, qui est aussi très bien porté. Donc vraiment pour les fans de shoot 'em up, c'est un jeu sympa.
D'accord. Si vous voulez tuer des elfes pendant 20 minutes, vous pouvez vous précipiter sur Cotton.
C'est un univers très très mignon, hein, donc c'est assez rigolo. Ça change des shoot'em up habituels où on tue des monstres dans l'espace, dans tous les sens.
On me confirme sur la chatroom que c'est 40 euros Cotton Reboot. Ça fait un peu cher, effectivement. Bon.
Alors, en promo pour Black Friday ou après les fêtes de Noël, quand ils vont vendre les invendus, ça sera peut-être plus intéressant.
C'est le genre de jeu qui surfe complètement sur la nostalgie. Et donc, les seules personnes qui vont vouloir l'acheter, c'est des gens qui le veulent, a priori, vraiment pour réexpérimenter cette nostalgie. Les gens qui n'en ont jamais entendu parler, c'est pas que tu vas les attirer avec 20 euros sur ce genre de, avec un prix bas, avec ce genre de truc. Enfin, j'imagine, 40 euros, ça me paraît très cher, même pour la nostalgie, mais bon.
Même pour la nostalgie, ça fait cher, parce que c'est un jeu qui a une durée de vie très courte, quand même. Hein.
Ouais, ouais, ouais.
Faut pas se leurrer.
Scoring, après.
Ouais.
Ouais, c'est ça. T'es pas convaincu.
Non, je suis pas convaincu. Mais le jeu est sympa, pour une demi-heure, c'est très bien. Donc à jouer chez un pote, donc pas tout. Si un jour on se, on se voit IRL, écoute, on le lancera sur ma console et tu pourras l'essayer.
Ça marche. Moi, je vais vous parler d'un truc qui est gratuit, si vous avez déjà acheté le jeu. Un truc qui est gratuit, qui s'appelle Avengers War for Wakanda.
Ah bah ça faisait longtemps.
N'est-ce pas? Évidemment, tous les auditeurs attendent avec impatience que je vous parle encore d'Avengers. War for Wakanda, c'est l'extension gratuite qui est disponible depuis 2 jours et qui est en fait le plus gros push marketing qu'ils ont fait depuis le lancement du jeu, depuis le lancement peut-être un petit peu raté du jeu, on va dire. Vous vous souvenez, je vous rappelle en un instant ce que j'en pensais pour ceux qui n'ont pas suivi. J'ai trouvé que le gameplay du jeu était vraiment sympa, que chaque personnage était très différent et que le gameplay était un peu comme dans un jeu de combat hyper différent d'un personnage à l'autre et hyper agréable à jouer et que tout le reste était vraiment assez mauvais. Disons que l'expérience solo peut être fun si on est fan des personnages, c'est une histoire qui va durer, je sais pas, une dizaine d'heures et ça peut être fun, mais comme c'est un jeu qui est là sur le long terme et qui a beaucoup d'éléments jeu-service, bah, le reste c'est des trucs... Bon bref, vous savez ce que j'en pense, je vais pas en refaire longuement, je vais pas en parler trop longuement. Et War for Wakanda, c'est un petit peu... c'est pas vraiment, ça y est, on a refait le jeu, maintenant il est bien, mais c'est, ah ça c'est une extension cool, vous allez voir, vraiment ça c'est fun. Et en fait... Bah oui, exactement comme le jeu d'origine. C'est-à-dire que Black Panther, il est vraiment fun à jouer. Il a, au fur et à mesure qu'on ajoute des capacités à son kit, vraiment cool, vraiment sympa. Le gameplay est tout à fait cool. Mais tout le reste, c'est à peu près pareil. Alors, il y a une histoire qui est en, je sais pas, 4-5 missions qui va vous prendre... j'imagine 2 heures à faire, et après, bah, on a Black Panther, je crois. Moi, j'ai fait la moitié, les 3/4 de la partie histoire, mais le jeu en lui-même a exactement les mêmes défauts qu'avant. Allez, on va dire qu'ils ont amélioré de 5%, mais les fondamentaux sont les mêmes. Donc, je crois que, comme les extensions précédentes, celle-là est plus grosse, mais comme les extensions précédentes, si vous avez le jeu et que vous l'avez aimé, bah, allez faire la partie histoire, vous allez passer 2 heures agréables. Ça devient un petit peu répétitif quand même de taper toujours les mêmes types d'ennemis de la même manière, mais le gameplay avec Black Panther est fun, donc ça fait passer le truc. Mais tout le reste commence à devenir un peu lassant, même pour quelqu'un qui apprécie le gameplay. Donc je pense que je vais finir la partie histoire, mais j'allais dire, mais après ça, je pense que j'en aurai fini. Mais en même temps, il y a Spider-Man qui devrait arriver avant la fin de l'année comme personnage supplémentaire, uniquement sur PlayStation. Mais quand Spider-Man arrive, impossible que j'y retourne pas. Et même si ça devient lassant, imaginons qu'ils amènent d'autres personnages. Je ne sais pas s'ils amènent, je sais pas, Wolverine ou des X-Men ou des 4 Fantastiques. Bon, c'est Avengers, donc peut-être que ça sera un autre... Ça sera... Wolverine, il fait partie des Avengers de temps en temps, donc c'est possible. Et donc là, impossible que j'y retourne pas. Mais je reconnais que, bon, ça commence à... ils n'ont pas vraiment amélioré le truc. Et je crois qu'à ce stade, là, ça fait presque un an qu'il est sorti, et ça, c'était leur gros push marketing, je ne les vois pas être en train d'investir sur plus de changements fondamentaux du jeu. Je crois que le jeu, il est ce qu'il est, il ne va plus changer, là. Donc, à moins qu'il y ait une annonce surprise à un moment, je crois que Avengers, bah, c'est ça. Voilà pour War for Wakanda. Ceci dit, Christopher Judge qui joue Black Panther, qui joue T'Challa, il est super bien. C'est au niveau réalisation, c'est pas mal foutu dans les cutscenes. Tout ça, c'est une expérience. Si vous aimez bien Black Panther et que vous avez le jeu, bah, je pense que vous êtes déjà en train d'y jouer, donc vous n'avez pas besoin que je vous le dise. Si vous n'avez pas le jeu, non, ça vaut toujours pas le coup de... Donc, la conclusion, ça vaut le coup de le relancer, si vous l'avez, mais si vous ne l'avez pas... C'est pas ça qui va changer la donne. Voilà pour War for Wakanda. On a encore des jeux dont on veut vous parler, encore au niveau des shoot 'em up, Dany. Je vois que tu as noté, en fait, ce n'était pas que Phoenix Wright. Hein. Tu as Darius Burst, Another Chronicle EX+.
voilà, de quelque chose comme ça, le titre. Alors, donc déjà, c'est Darius. C'est dans la lignée des Darius. Donc Darius, qu'est-ce que c'est ? C'est des shoot'em up avec des vaisseaux qui se baladent dans l'espace et qui tirent sur des ennemis dans tous les sens. Sauf que les ennemis là, ce sont en général des poissons robots qui peuvent faire plusieurs écrans, qui sont énormes avec des rayons laser partout, des machins, etc. Donc ça, c'est la spécificité de Darius par rapport au reste.
C'est un jeu des années ensuite, 90. Hein.
80 même, hein. 80, les premiers étaient dans les années 80 je pense. La spécificité de ces jeux, c'était des jeux d'arcade, c'est surtout aussi qu'ils étaient sur des machines d'arcade avec deux ou trois écrans, donc ça permettait d'avoir un jeu en fait tout en largeur et donc ça, avec un format de gameplay unique. Donc là par exemple ils ont respecté ça, hein. C'est donc on saute quelques années, hein. Il y a eu plein de Darius sur toutes les consoles, etc. Darius Burst, hein. C'est une version arcade je crois début des 2010, je me souviens plus exactement, qui était sorti. Et donc Darius Burst Another Chronicle EX, c'est une version adaptée de ces jeux d'arcade de fin des 2000, début 2010, qui a été adapté pour les consoles et qui permet plusieurs choses. Déjà, mode multijoueur en local, ce qui est plutôt sympa et assez rare de nos jours, qui garde toujours ce format extrêmement large d'image. Donc en gros, si vous avez un LCD de 30 pouces, ça va pas être super lisible. Par contre, si vous avez un 70 pouces, là c'est Noël, c'est fantastique. Et le gameplay est toujours très similaire à ce que c'était. Donc, en gros, à chaque niveau, tu peux prendre des embranchements qui t'emmènent dans des sous-niveaux différents, et ce qui fait que le jeu complet, même si c'est un jeu d'arcade de l'époque et qu'il faut parcourir peut-être 5 ou 6 niveaux, avec les embranchements pour tout voir, ça prend beaucoup, beaucoup plus de temps et ça offre plus de
là,
temps
y a
de jeu
de la
possible que Cotton.
Quoi,
il y a beaucoup de
Cotton.
Rejouabilité, exactement. Et il y a effectivement aussi des rankings online, etc., avec des gens qui ont fait des scores de malades, qui doivent peut-être aussi être liés avec les high scores des jeux de l'époque, je ne sais pas, je ne vais pas trop regarder, je suis trop, trop mauvais pour m'intéresser à ça. Et il y a beaucoup, enfin, il y a aussi... dans les anciens, sur PSP par exemple, il avait été adapté sur PSP, il y avait des sortes de DLC avec des vaisseaux supplémentaires qu'on pouvait acheter des crossovers avec d'autres types, d'autres shooters des 80-90. Et donc peut-être qu'à terme, c'est ce que j'espère, qu'ils feront des choses similaires pour avoir plus de vaisseaux différents, pour pouvoir essayer aussi tous les embranchements possibles. Et il y a plein de modes de jeu. Il a une bonne durée de vie et je pense qu'il est moins bordélique ou difficile que Cotton.
D'accord.
Donc
c'est moins bullet-hell, quoi.
Moins bullet hell, il est difficile, hein. Ça reste un jeu d'arcade, mais au moins le choix des niveaux permet de prendre des niveaux plus ou moins faciles selon l'envie, et il y a beaucoup beaucoup de choix, donc intéressant pour ceux qui aiment les shooters et ceux qui aiment Darius. C'est un bon investissement, surtout pouvoir jouer en coop en local, je trouve ça fantastique.
Moi j'avais testé la démo de R-Type, c'est aussi un R-Type, oui. 2 plus EX quelque chose, et c'est quand même... Enfin, c'est vraiment des trucs, évidemment, j'y ai passé des heures et des heures à l'époque, mais c'est vraiment l'expérience exactement comme à l'époque, quoi. Donc, ouais. Dans le genre, c'est pas du rétro gaming, mais enfin, si, c'est presque du rétro gaming, en fait. Et c'est le genre de truc qui, moi, me. Enfin, j'ai un petit peu de mal parce que c'est enfin, on n'est plus dans dans ce type de gameplay aujourd'hui. Donc, bon.
Je pense que surtout ces jeux-là, ils sont orientés pour le marché japonais où il y a encore beaucoup de demandes avec les time attack, les machins, etc. Mais c'est sûr que moi, je l'ai pas payé, donc je peux pas me plaindre. Donc c'était sympa.
Mais tu payes rien,
heure,
en fait. C'est comme ça qu'on devient riche.
Paye rien.
C'est en payant rien.
C'est ça. Si vous voulez m'offrir une Bentley ou une Porsche, je veux bien. Il y a pas de
tu
problème.
Tu prends aussi, ok, d'accord. Je garde à l'esprit, hein, au cas où.
mais globalement. globalement, je pense que effectivement, c'est des jeux où, enfin, j'ai peut-être vieilli, hein, mais j'y prends moins de plaisir qu'à l'époque. Donc, c'est sympa une heure, mais je pense pas y jouer pendant 3 semaines, quoi. C'est pas possible.
Ouais. D'accord. Peut-être un jeu à tester s'il vient un jour sur le Game Pass. J'ai l'impression que tu l'as dit, mais on demande dans la chatroom, est-ce qu'il prend en charge les écrans ultra-wide ? C'est plutôt des jeux qu'on joue sur console. Mais est-ce que si tu joues sur PC, tu sais s'il prend en charge les écrans ultra-wide ? Il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas en même temps. C'est vraiment l'écran hyper allongé.
Il est hyper allongé, ouais. C'est ça. Et moi, donc, j'ai joué sur PlayStation avec ma télé. Et donc, effectivement, enfin, il y a des bandes noires qui font peut-être, je sais pas, au moins un tiers ou 40% de l'écran. Ouais.
Si tu mets les deux ensemble, ça fait la moitié de l'écran, ouais. J'ai l'impression qu'en fait, la largeur, c'est deux écrans 16/9 l'un à côté de l'autre, quoi. À peu près.
Mm-hmm. Donc, ouais, c'est possible. Ouais.
Ok.
Parce qu'à à l'époque, c'était trois écrans 4/3, donc.
Ça ferait à peu près ça, ouais. Le dernier jeu dont je voudrais vous parler, c'est un truc dont j'avais jamais entendu parler jusqu'à ce que j'en entende parler dans différents podcasts. Et du coup, je m'y suis un petit peu intéressé. C'est un jeu qui est encore une fois sur le Game Pass, qui s'appelle Dodgeball Academia. Et c'est un jeu vraiment marrant, qui n'est pas que sur le Game Pass, hein, il est dispo ailleurs évidemment, mais c'est un jeu qui est vraiment... marrant, bizarre, rigolo et assez stylé, en fait. C'est un jeu de dodgeball, donc de balle aux prisonniers. Et on est avec des graphismes, alors c'est clairement un jeu indé, mais des graphismes genre dessinés à la main, ça me fait penser à Nickelodeon, l'image que j'ai jamais vu les Powerpuff Girls, mais ça me fait penser à cette esthétique un petit peu, un peu Nickelodeon. Et ça, c'est pour l'aspect esthétique, c'est très bien fait. Tous les personnages sont en 2D dans un univers en 3D. Et au niveau du jeu, c'est un jeu de balle aux prisonniers, comme on en a vu beaucoup. On parlait régulièrement de... comment il s'appelle ? Knockout City de EA, qui est très différent, hein, qui est un jeu compétitif 3 contre 3, free-to-play en 3D, là, pour le coup, où on est en arène et on n'est pas sur un terrain de dodgeball. Là, c'est vraiment, on est sur un terrain de dodgeball et on joue au dodgeball, on joue à la balle aux prisonniers. Sauf que l'environnement, c'est un truc complètement loufoque, où on est un petit peu, vous savez, comme toutes ces séries d'animation, tous ces animés japonais, où on est des lycéens, et tout l'univers tourne autour d'un truc, genre le foot, ou le basket, ou le tennis, ou les cartes à jouer pour Yu-Gi-Oh, ou ce genre de choses. Et toute l'école, et d'ailleurs, il n'y a que ça dans l'école quasiment, et toute l'école est super bonne à ce genre à ce truc-là. Et c'est genre, il y a le tournoi mondial du alors en l'occurrence, c'est de la balle aux prisonniers. Et l'école a la balle du champion de la balle aux prisonniers qui tourne encore tellement il l'a lancé fort dans une pierre il y a des années de ça. Et c'est de là que le pouvoir de l'école vient. Enfin, il y a plein de trucs complètement. Et les personnages, c'est en gros des humains, mais il y a plein de trucs hyper bizarres. Genre, il y a Balloony qui est une sorte de ballon. Il y a des vampires, il y a plein de trucs super bizarres. Il y a des cubes, et chacun a une personnalité particulière et des coups spéciaux et ce genre de choses. Et au départ, tu commences avec la balle au prisonnier et tu dis, c'est super basique en fait, c'est juste tu lances la balle, tu peux l'attraper et voilà. Et au fur et à mesure, ils introduisent des éléments de gameplay qui complique vraiment le jeu. Il y a des coups spéciaux, on est trois sur le terrain en même temps, il y a des contres spéciaux pour renvoyer la balle quand on essaye de l'attraper. Enfin, il y a plein de trucs. Et ça devient vraiment complexe. On peut envoyer la balle plus ou moins vite en fonction de... On peut la contrôler avec le joystick. Enfin, donc, même le niveau gameplay, ça devient vraiment complexe. Et l'environnement est hyper, hyper charmant. C'est un truc que je recommanderais pour le fun, même si vous avez des enfants, maintenant je pense toujours à ça évidemment, mais ça peut être complètement adapté, en tout cas de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. On peut équiper ces joueurs avec des pièces d'équipement spéciales qui vont leur donner des bonus. Enfin, vraiment, c'est complexe, c'est un vrai jeu et c'est hyper charmant en fait. Et je trouve que ça fonctionne très très bien et c'est un petit peu genre, intense, parce que tous les personnages sont un petit peu en train de crier ou de... faut le vivre, faut le voir. Mais c'est très, très, très sympa. Dodgeball Academia, ça fait penser aussi à My Hero Academia, enfin ce genre de truc que j'ai jamais vu non plus, mais c'est dans cette... Je pense qu'ils se sont inspirés. C'est un jeu Humble Games, donc c'est vraiment un truc pas très triple A, on va dire. Mais c'est vraiment juste un petit jeu sympa qui est sur le Game Pass. Je ne sais pas si je le recommanderais à tout le monde de l'acheter, si je recommanderais à tout le monde de l'acheter, mais en tout cas, à tester sur le Game Pass, ça pourrait vraiment vous plaire. Dodgeball Academia. Dany, je sais que tu vas te précipiter dessus.
Ouais, bah écoute, j'avais regardé, en fait, ça c'est un ovni, il est passé complètement... inaperçu de mon côté dans ma timeline, mais en fait de ce que tu en as dit et de ce que j'ai lu sur ce jeu il y a quelques jours, ça c'est tentant, je serais peut-être.
Ouais, je pense que ça peut valoir le coup pour certains. Et vraiment c'est très très bien foutu, hein. comme jeu, je veux dire techniquement il est parfait, etc. Alors, bah écoutez, on arrive du coup au bout de nos petits jeux. Je vais juste mentionner qu'il y a Humankind qui sort dans pas longtemps. Est-ce qu'il est déjà sorti? Je ne me souviens plus. C'est le Civ-like, le Civilization-like qui sera inclus dans le Game Pass. Oui, il est sorti il y a 2 jours, Humankind en fait. Beaucoup de gens disent que en fait, c'est vraiment Civilization. Donc, c'est... Ils espéraient avoir des trucs un petit peu différents. Et il y a 12 Minutes qui sort aujourd'hui, qui est un jeu également assez étrange, qui est une boucle de 12 minutes à un dîner vu de dessus avec des acteurs, des vrais acteurs de films super connus, qui a l'air vraiment intéressant. Il sort un petit peu plus tard aujourd'hui et il est aussi dans le Game Pass. Donc, bon, ça fera des choses à dire. Il y a aussi Psychonauts 2 qui arrive le 25 août pour ceux qui aiment. Moi, je ne suis pas vraiment client de Double Fine, mais Psychonauts 2 arrive et lui aussi dans le Game Pass. Donc, vous voyez, la moitié des jeux dont on a parlé aujourd'hui, ils sont dans le Game Pass. J'exagère, mais à peine. Je vais prendre une seconde pour remercier les auditeurs qui soutiennent. Et en fait, non. Je ne vais pas remercier les auditeurs qui soutiennent sur Patreon, même si ce remerciement est implicite et sincère. Je vais suggérer à ceux qui ne soutiennent pas encore d'aller faire un petit tour sur Patreon. D'aller même faire un petit tour sur le Discord. On va bientôt aller, on va bientôt remettre à jour le Discord et l'étendre un petit peu plus. Et vous pourrez faire partie de cette communauté formidable. Et le fait d'être sur le Discord n'a rien à voir avec le Patreon, mais c'est juste que la communauté du Rendez-vous Tech est vraiment du Rendez-vous Tech et du Rendez-vous Jeu, hein, c'est la même, est vraiment bienveillante et accueillante. Et quand on soutient sur Patreon, on rentre en fait dans cette communauté et on fait partie, on trouve un petit peu, je ne vais pas dire une deuxième famille sur Internet, mais on trouve une communauté qui est juste sympa, cool et qui correspond à une ambiance, une attitude qui est un petit peu différente de ce qu'on trouve ailleurs sur Internet. Donc, au-delà du soutien financier qui est évidemment important pour moi, hein. Vous savez que c'est grâce à ça que je paye mon loyer et que je peux donner à manger à mon fils, c'est ma source de revenus principale dans mon activité de podcasteur. Au-delà de ça, j'aimerais vous encourager à aller jeter un coup d'œil au Patreon, parce que au Patreon et au Discord, parce que c'est un truc dont il est sympa de faire partie et d'interagir, que ce soit sur les commentaires sur Patreon, sur le Discord, sur quand on discute entre nous et moi avec vous, quand on s'envoie des messages privés, tout ça. Ça fait partie, en fait, le Patreon, c'est plus que juste le Patreon, c'est plus que juste le soutien de l'émission, c'est vraiment une communauté de gens cool et sympa. Donc, j'espère que c'est une idée qui vous... séduira, qui vous interpellera parce que vous appréciez l'émission, mais j'espère aussi et surtout que si vous passez le pas, eh ben vous en serez heureux parce que ça vous apporte aussi un petit quelque chose. Donc merci à vous tous de soutenir l'émission et ceux qui ne le font pas encore, merci de le considérer. C'est sur patreon.com/rdvjeu, évidemment vous avez les petits bonus comme les timecodes dans les dans les émissions sur le flux privé, vous avez pas de pub, y compris ce petit laïus au milieu qui n'est pas nécessaire pour vous. Enfin bref, plein de petits bonus et j'espère que vous le considérerez. Patreon.com/rdvjeux.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et du coup, j'en profite pour remercier aussi ceux qui ont mis des gentils commentaires sur iTunes, en particulier Flav6983, Rusus, Calmant et Marc1285. Vous êtes allés, suite à ce que je disais la dernière fois, mettre des gentils commentaires sur iTunes. J'apprécie énormément. Merci, merci. Et n'hésitez pas à aller le faire aussi si vous ne l'avez pas encore fait sur iTunes ou ailleurs, hein, d'ailleurs, là où on peut mettre des commentaires sur les podcasts. Là où vous écoutez, eh ben, ça serait cool de mettre des commentaires et des étoiles si vous appréciez l'émission. Alors, parlons un petit peu d'Intel. Dany, je sais que c'est ta grande passion de parler d'Intel. Tu es absolument séduit par tout ce qu'ils font. Intel a fait quelque chose d'inattendu, ou bon, peut-être qu'on en avait des rumeurs ici et là, mais ils ont annoncé une nouvelle gamme de produits qui est une gamme de produits qui va nous intéresser, nous, les gamers, puisque c'est des cartes graphiques. Intel Arc, c'est des cartes graphiques, ce qu'on appelle les cartes graphiques discrete, donc des cartes graphiques indépendantes, autonomes, qui ne sont pas ce qu'ils faisaient déjà depuis longtemps, avec le branding, c'était Iris, je crois. Des cartes graphiques qui étaient intégrées au processeur, qui étaient franchement pas très très performantes. Hein. C'était des trucs qui étaient mieux que rien dans les ordinateurs portables généralement et qui vous permettaient d'avoir une sortie vidéo sur votre ordinateur même sans ajouter de carte graphique, ce genre de choses. Mais ça, c'est différent. C'est censé être, alors on n'a pas encore tous les détails, mais c'est censé être des vraies cartes graphiques qu'on achète comme on achèterait une RTX ou une Radeon. Et qui auront des performances comparables. C'est intéressant de voir qu'il va y avoir un troisième acteur qui se lance sur ce marché. Ça veut dire que le marché est quand même extrêmement porteur, parce que Intel, ils ne sont pas en super méga forme, donc s'ils y vont, j'imagine qu'ils y voient un potentiel. À voir s'ils pourront être en concurrence avec les constructeurs existants. Et évidemment, ils disent qu'ils vont avoir tous les buzzwords nécessaires, le ray tracing, enfin bon, ils feront tout. Hein. Elles arriveront les premières, normalement, début 2022, et on aura plus d'infos vers la fin de l'année, mais là, ça a été annoncé. T'y crois, toi, des bonnes cartes graphiques Intel, Dany? Je rappelle que tu travailles chez Dell, donc peut-être que tu peux pas dire de mal de Intel, je sais pas.
Mais de toute façon, je peux pas trop me prononcer parce que tu vois, j'en sais pas beaucoup. J'ai pas eu l'occasion d'en essayer une sur des jeux et de me dire, oh, c'est génial, la performance, etc. Maintenant, moi, là où je trouve ça intéressant, en fait, c'est que ça va peut-être un peu rééquilibrer le marché parce que les pénuries qui nous impactent depuis, sur les cartes Nvidia et AMD, je sais pas, c'est depuis tellement longtemps que je me souviens même plus quand c'était la période où les prix étaient raisonnables, on pouvait les acheter sans avoir besoin de rafraîchir des sites pendant des heures. Je pense que ça va peut-être permettre d'avoir assez d'afflux de cartes graphiques sur le marché pour satisfaire la demande et peut-être avoir des tarifs en fait plus compétitifs.
Alors là, la concurrence, c'est sûr que ça fait toujours du bien. La disponibilité, je ne sais pas si... Bon, Intel, ils ont l'habitude de faire beaucoup, beaucoup de processeurs, donc peut-être qu'ils auront assez de... Et puis, ils ont leurs propres usines. Donc, peut-être qu'ils fabriqueront ça chez eux, ce n'est pas sûr, mais peut-être. Donc, effectivement, peut-être que ça amènera plus de choix et de disponibilité. C'est aussi 2022. À ce stade, on imagine que la disponibilité avec les investissements qui sont faits dans les usines pourrait commencer à se... Disons que la pression pourrait commencer à se relâcher autour de début mi-2022. Donc, peut-être que ça sera la bonne période. Mais oui, il faut certainement attendre de voir. D'une manière générale, moi, je me dis c'est toujours une bonne chose d'avoir plus de concurrence. Enfin, toujours. En tout cas, quand on n'en a pas beaucoup. Et là, donc, c'est un gros acteur. Et je me dis, ils sont tellement dans la merde par ailleurs que s'ils se lancent là-dedans, c'est que j'espère qu'ils sont pas sûrs de leur coup, mais enfin qu'ils vont au moins être compétitifs, quoi. J'espère.
Et tu vois, là, je pense où il y a peut-être un risque aussi, c'est le hardware sera sans doute de bonne qualité, mais tu vois, ce qui joue aussi beaucoup dans la performance des cartes graphiques, c'est les drivers, c'est le soft. Et de mon expérience et de ma perspective à moi, qui est limitée en tant que joueur, hein, ça prend du temps et beaucoup d'efforts pour arriver à implémenter des drivers qui soient performants et optimisés pour tous les derniers jeux du moment, mais aussi toutes les vieilleries, etc. Donc, est-ce que c'est facile de rentrer dans ce secteur-là aujourd'hui et d'arriver à avoir des drivers performants dès le lancement ? Ça, c'est l'avenir nous le dira.
C'est sûr. Ce que je dirais, c'est qu'ils ont quand même, ils arrivent pas de nulle part. Tu vois, au-delà du fait qu'ils soient des fondeurs depuis longtemps de processeurs, ils font des cartes graphiques, alors qui sont pas au niveau des performances des cartes graphiques autonomes, mais ils font des cartes graphiques depuis très longtemps. Hein. Ça fait, je sais pas, une décennie plus qu'ils font des cartes graphiques. Donc ils viennent pas de nulle part. Donc je pense qu'il y a quand même.
Et c'est le plus gros vendeur de cartes graphiques. Hein, parce qu'il y en a dans tous les ordinateurs portables, machin. Donc oui, c'est pas forcément les modèles haut de gamme qui vont nous permettre de jouer en 4K à 360 Hz, mais en attendant, oui, j'ai aucun doute là-dessus. Mais vraiment, c'est ce qui me la question pour moi, c'est quel va être l'équilibre en fait entre le prix, la performance en jeu et la qualité des drivers pour l'expérience in-game. Et tu vois, pour moi, j'imagine que les cartes les plus intéressantes, ça va être peut-être entre 250 et 500 ou 600 euros. Comment est-ce qu'ils vont arriver à se positionner dans ce segment-là? Le très bas de gamme.
Ouais, bon, écoute, on attendra de voir. Je suis sûr qu'on va en apprendre plus très, très vite. Mais c'est un événement extrêmement important.
Ça va être intéressant. Ouais. Et surtout, où est-ce qu'ils vont se positionner? Est-ce qu'ils vont lancer des équivalents des 3090 et autres pour taper dans le très haut de gamme et dire regardez, voilà notre vitrine, c'est le bijou? Ou alors, je sais pas, tu sais, il y a les réalités marché mercantiles qui font que tu vois, des 3090, c'est bien de les vendre, mais t'en vends pas, je pense, non plus à l'appel. Quoi.
Oui, mais c'est là que tu marges. Enfin, je pense, j'en sais rien. Mais... j'imagine que s'ils y vont, ça va être pour couvrir tout le marché. Hein, mais... On va voir. Parlons un petit peu de ton jeu préféré de toute l'histoire du monde. Et quand je dis ton jeu, j'entends tes jeux, puisqu'on va parler du Pokémon Presents qui a eu lieu hier. Alors, on ne va pas rentrer dans tous les détails des Pokémon, parce que c'est marrant, on ne se rend pas compte à quel point il y a de jeux Pokémon différents. Il y avait, évidemment, ils ont parlé du MOBA, Pokémon Unite, qui a une date, je crois, si je ne dis pas de bêtises, il arrive le 22 septembre sur mobile. Ils ont donné une date aussi pour Brilliant Diamond et Shining Pearl, qui arrive le 22 novembre, le remake de la version Diamond et Pearl. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est surtout... Alors, comme je disais, ils ont parlé de jeux dont je ne me souvenais même pas ou dont je ne savais pas qu'ils existaient. Alors... Pokémon Café Mix, je m'en souvenais pas, c'est un jeu mobile qui a une refonte, mais ok. Et Pokémon Masters EX, tu connaissais ce jeu, toi ?
J'y avais joué au lancement, hein, peut-être
c'est un jeu mobile,
genre
c'est
une semaine. C'est un jeu mobile, ouais. C'est un jeu mobile et comment le catégoriser ? Je m'en souviens même plus. Il m'a pas marqué.
T'as pas marqué
ouais. C'est le genre de jeu à gacha où il faut avoir les bons héros, machin, etc. Bon, ça m'a rapidement saoulé. Moi, tu vois, dans les annonces sur les jeux mobiles, la seule qui m'a intéressé vraiment hier, c'est Pogo avec les nouveaux Pokémon de Galar qui arrivent à la fin du mois sur mobile. Voilà, c'est tout.
Donc ça, c'était le truc important. Écoute, il y a un autre truc qui m'a beaucoup marqué, moi. c'est... Oui, dans la chatroom, c'est toi qui nous en avais parlé, Pokémon Café Mix. Oui, oui, non, mais celui-là, je m'en souvenais. C'est Pokémon Masters EX dont je ne me souvenais pas du tout. Mais le truc le plus important, c'est Pokémon Arceus, qui est le jeu qui arrive, c'est l'année prochaine, je crois.
En janvier, je crois.
En janvier, quelque chose comme ça. Qui avait vraiment raté sa première présentation, qui était, qui saccadait et qui était moche. Et qui là, ils l'ont remontré, je pense que c'était vraiment pour damer le pion à tous ceux qui disaient « Oula !» Enfin, pour convaincre ceux qui faisaient « Attends, Arceus, t'es sûr, sur la Switch, est-ce qu'ils vont pas sortir une Switch Pro pour pouvoir faire tourner Pokémon Arceus ?» Bon, et ben là, non seulement il tourne nickel, enfin, c'est au moins du 30 FPS, hein, c'est ce qu'on peut attendre des jeux Switch, mais en plus, franchement, il est très beau. Il y a un petit peu de design artistique qu'on comprend, inspiré peut-être par Zelda, et on peut le comprendre parce que le genre, c'est un jeu en monde ouvert avec des grands espaces, donc on n'a pas la même puissance disponible que pour un jeu où les environnements sont limités. Mais je dirais les environnements, ça fait un petit peu Zelda avec beaucoup de cel shading, etc. Mais c'est super beau, ça fonctionne très bien. Après, ils ont détaillé plein de systèmes du jeu qui sont un petit peu différents des jeux Pokémon traditionnels. Mais ce qui est notable au final, c'est que c'est le premier jeu Pokémon 3D, on va dire, dans un monde ouvert, un jeu Pokémon moderne. Et ça fait très longtemps qu'on l'attendait. Et là, ça a l'air d'être, au moins graphiquement, hein, parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui, un représentant digne de cette idée. Là, j'ai été complètement séduit par le jeu au niveau graphique. Pour les autres niveaux, on n'a a priori pas vraiment à s'inquiéter. Il semble que Pokémon sache un petit peu ce qu'ils font. Hein. Mais c'est aussi l'occasion, on le verra quand on aura plus d'infos, mais c'est aussi l'occasion de renouveler un petit peu la formule. Parce qu'il s'appelle Pokémon Legends. J'imagine qu'il va y avoir Pokémon classique qui sera comme les jeux classiques et qui vont aussi développer, si celui-là marche bien, des Pokémon Legends de différents titres. Et donc, pourquoi pas changer un petit peu la formule pour apporter des choses un petit peu plus modernes dans le jeu et dans le gameplay, puisqu'il y aura, j'imagine, les deux séries en parallèle. Donc, Pokémon Legends Arceus, moi, j'ai été agréablement surpris. Je ne crois pas que c'est juste parce que la première présentation était tellement inquiétante, mais j'ai trouvé ça relativement sympa quand même. Je ne sais pas si toi, tu...
Moi, ce que j'aime là-dedans... quasiment tous, ouais. Donc, plus ou moins, hein. Je les ai au moins tous essayés un peu, donc ouais.
Je rappelle aussi que tu travaillais chez Nintendo à l'époque des premiers Pokémon et que tu as participé à la traduction, donc il a une place particulière.
Voilà, ouais, donc c'est pour ça, c'est une place particulière de mon cœur. Si je ne l'avais pas fait, peut-être que je n'aurais pu pas jouer du tout. Hein. Mais donc, ouais, en fait, donc, c'est sûr que Diamond et Pearl, ils ont l'air sympas, je vais y jouer, c'est sûr, mais c'est finalement, somme toute, très classique. Hein. C'est une sorte de remake, remaster, un peu amélioré, plus chouette, etc. Pas de problème. Ça a l'air sympa, mais ça révolutionne pas la formule. C'est, somme toute, du bon Pokémon classique. Et Legends, même si j'ai des doutes, je suis pas sûr, hein, je suis un peu prudent au niveau de l'attrait du jeu et de la façon dont je vais accrocher sur la durée du jeu, au moins, c'est que c'est risqué, c'est quelque chose de nouveau, de différent qui tente. Graphiquement, ouais.
Risqué,
c'est très
joli. Peut-être pas jusque-là, hein, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais...
Disons que ça sort du combat au tour par tour avec la collection de Pokémon, avec t'affrontes des entraîneurs pour aller prendre les gyms, etc. Et c'est rare, quoi, tu vois, parce qu'ils ont une formule tellement ancrée dans quelque chose d'assez rigide que je trouve que c'est sympa d'avoir vraiment une approche un peu différente de l'univers Pokémon.
Ouais. Eh ben écoute, espérons
on va voir,
que ça sera
quand il sortira.
Quelque chose de convaincant.
Mais tu vois, contre toute attente, Pokémon Snap, le remaster là, qui est sorti il y a 3 mois, 6 mois, je ne sais plus. Écoute, je l'ai terminé, j'ai passé un bon moment dessus, c'était très différent, c'était sympa, c'est rigolo et mignon comme tout. Et tu vois, pour les parents qui ont des enfants, c'est un jeu très sympa à faire en famille.
Ah, tu sais quoi, quand tu disais ça, j'étais en train de me dire, un jour j'aurai plus de temps, mes enfants seront plus grands. J'étais en train de penser ça. Et en fait, peut-être pas encore, il est un peu trop petit peut-être pour le faire jouer à Forza et ce genre de trucs.
Ouais, j'ai vu Forza. Non, mais s'il joue à Forza, t'inquiète, il peut jouer à Pokémon.
Ouais, il joue pas très
simple. Hein, ouais.
il joue à Forza. Il y arrive un peu, hein, mais il aime quand même beaucoup rentrer dans les murs aussi vite que possible avec les bagnoles.
Donc, mais peut-être... Oula, ouais, d'accord. Il n'aura pas son permis tout de suite. Hein.
Il a 3 ans et demi, donc ça va. Mais du coup, peut-être qu'un Pokémon Snap, il faut juste se balader et prendre des photos, les trouver.
C'est même pas, tu es sur un rail. Tu es sur un rail, donc tu déplaces juste le viseur, tu te retournes, tu lances des Pokéballs sur... Enfin, pas vraiment des Pokéballs, mais des sortes de balles sur les Pokémon pour leur faire des actions spécifiques et à partir de là tu essayes de prendre des photos qui sont notées et ça débloque des passages, des niveaux, des mondes, des objets, etc. Et l'objectif c'est d'avoir le Pokédex avec toutes les photos de tous les Pokémon dans des poses machin, etc. Et des fois tu arrives à avoir des poses exceptionnelles et tu waouh, génial, j'ai eu ça, mais c'est incroyable, j'avais une demi-seconde, c'est super dur. Et voilà, et la plupart du temps, c'est des photos pourries parce que bah, le Pokémon était en train de dormir, mal cadré derrière un arbre. Et tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait là? C'est quoi ça?
D'accord.
Et donc, bon, c'est très sympa.
C'est à garder à l'esprit, peut-être qu'à un moment, j'en profiterai pour le mettre dessus.
Et en plus, un gros avantage pour toi, ça fera parler ton côté un peu sadique. Hein. Tu vois, les Pokémon qui dorment, par exemple, tu peux les réveiller en leur balançant des pommes dessus ou les faire tomber des arbres et machin. Ça donne un peu de piquant au jeu aussi.
Ouais.
Un peu notre côté, genre, on est méchants.
Tu sais, pour moi, même le sommeil des Pokémon, c'est sacré en ce moment.
Hein. Oh.
Le sommeil, on rigole pas avec. Je ne ferai pas l'offense aux Pokémon de les réveiller quand ils dorment. Donc, mais bon, je le garde à l'esprit. Très bien. Donc ça, c'était le Pokémon Presents. C'est quand même fou que la Pokémon Company, ils ont même pas, ils sont pas, ils font pas partie des Nintendo Direct. Bon, c'est pas Nintendo, mais quand même, ils ont juste leur Pokémon Presents, juste pour une licence. C'est, enfin bon, bref.
Énorme, c'est énorme.
Je crois que c'est les seuls. Hein. C'est la seule licence. Bon, après, il y a les trucs genre les trucs de Destiny, de Warframe, de qui font leur propre. Leurs propres updates, c'est vrai. Donc, mais là, c'est, j'ai l'impression que c'est au niveau presque des Nintendo Direct ou des State of Play ou des Xbox Insider, ce genre de choses. Sauf que c'est juste pour Pokémon. Bref, c'est Pokémon. Allez, quelques annonces rapides. On a d'une part Call of Duty Vanguard qui a été annoncé. On aura plus d'informations dans quelques jours de ça. On a eu un trailer officiel qui semble indiquer qu'on est sur les 4 théâtres d'opération de la Deuxième Guerre mondiale, oui, parce que ça fait partie, c'est dans l'univers de la Deuxième Guerre mondiale, Call of Duty revient, comme on avait entendu parler dans des rumeurs, dans la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est-à-dire, a priori en Russie, quelque part dans le désert en Afrique du Nord, en Allemagne et sur le terrain du Pacifique. Donc, il y aura peut-être un élément narratif dans ce contexte. Ça va être vraiment intéressant de voir ce qu'ils vont en faire. Bon, Call of Duty, c'est Call of Duty, il y en a comme toujours. Mais de voir ce que ça va donner avec Warzone, justement, qui continue à être extrêmement populaire, évidemment. Donc, bon, on en saura un petit peu plus bientôt. À noter que beaucoup de gens ont fait la remarque de... oui, il y a beaucoup de gens qui parlent de Call of Duty et qui ne mentionnent même pas ou à peine le scandale de harcèlement chez Activision. Moi, dans les articles que j'ai vus, c'était généralement mentionné à la fin de l'article, mais quand même, je ne sais pas comment on peut faire autrement. Enfin, je veux dire, tu ne vas pas ouvrir l'article avec... ou peut-être qu'il faudrait trouver un surnom à Activision, genre... Actirsellement ou ce genre de choses, je ne sais pas. Pour vraiment, tu vois, tu ne vas pas ouvrir l'article en disant Activision qui est sous le coup de poursuites judiciaires pour des questions de harcèlement a présenté machin, ça fait... Je ne sais pas si ça marche mieux, mais bon. Bref, Call of Duty Vanguard sera présenté bientôt plus en détail. On a Castlevania Grimoire of Souls. Dany, tiens-toi bien, Castlevania Grimoire of Souls, qui est sorti en 2019, qui était un jeu mobile, qui était extrêmement microtransaction-isé, qui revient, mais cette fois, sur Apple Arcade. Et sur Apple Arcade, il n'y a pas de microtransaction, c'est juste des jeux complets. Et du coup, il a été visiblement retravaillé pour être sur l'Apple Arcade. Il n'est pas encore, hein, mais il arrive bientôt. Et bon, c'est clairement un jeu mobile qui a été développé il y a 2 ans, donc c'est pas au niveau des graphismes les graphismes les plus impressionnants qui soient, mais au niveau de la Castlevania, bah il a l'air quand on voit le trailer en tout cas assez convaincant. Et pour ceux qui ont l'Apple Arcade, ils sont très très mauvais, Apple Arcade, pour mettre en avant les jeux que les joueurs de console ou PC, les joueurs traditionnels, auront envie de jouer. Il y en a, hein. Il y a Fantasian, dont Thomas nous parle tout le temps sur le Discord. Il y en a vraiment plein.
Il y a Taiko no Tatsujin.
Par exemple, oui. Mais franchement, à regarder Grimoire of Souls, j'ai l'impression que c'est un vrai Castlevania, quoi. Ça me donne presque envie de reprendre l'Apple Arcade pour le tester.
Ou alors, tu rachètes Symphony of the Night sur PlayStation. C'est ce que j'ai fait récemment.
Option. Ouais. C'est toujours une option, c'est vrai. Mais je sais pas, peut-être que là, franchement, il a l'air celui-là, il a l'air hyper dynamique, hyper. Enfin, quand tu vois les armes, il y a un mode coop à deux. Peut-être que c'est ça qu'il faudrait faire. On va le trouver sur un App Store. Enfin non, il avait été fermé un an après. Mais il y a un mode coop à deux. Ça pourrait être
marrant. Bon, ça peut être marrant, c'est sûr. Ouais, moi, j'en trouverais bien.
Ouais, mais ça ne sera pas moi, je sais. 11-Bit Studios a annoncé Frostpunk 2. Frostpunk qui était l'un des jeux de l'année, je crois, pour JK il y a deux ans. C'est un city builder dans un univers complètement... gelé, et on construit les villes en cercle, et il faut garder la chaleur, etc. Et donc, le 2 a été annoncé. Il n'y a pas de date, mais pour ceux qui étaient fans de Frostpunk, vous en aurez plus à vous mettre sous la dent. Et l'autre truc dont je voulais parler spécialement pour Dany, c'est Shining Force, Heroes of Light and Darkness, qui arrive sur smartphone à un moment. Qu'on n'a pas de date non plus, mais sur smartphone à un moment. Est-ce que ça t'évoque ?
J'ai le cœur brisé, mais en fait, alors plusieurs choses. Déjà, graphiquement, je trouve qu'ils sont arrivés à bien reprendre la patte graphique des jeux sur Mega Drive à l'époque. Et pour ceux qui connaissent pas Shining Force, c'est des jeux de stratégie, des JSRPG au tour par tour. Je ne sais pas si on dit un truc comme ça, voilà. Et donc, des jeux de stratégie au tour par tour, avec des passages de niveau, des changements de classe, des personnages qui deviennent de plus en plus forts, qui peuvent équiper des épées, des boucliers, de la magie, je ne sais pas. Et j'en passe. Et en gros, donc graphiquement, c'est super chouette. Moi, ce qui m'ennuie là-dedans, c'est premièrement, c'est un jeu sur mobile. Et deux, c'est un free-to-play. Donc, ça veut dire que ça va être un gacha. Tu veux ton héros, le super centaure, machin, qui a une lance dorée, qui lance des éclairs. Et t'as une chance sur 3 millions pour l'avoir. Tu claques 300 euros si tu le veux. Et en plus, c'est des maps et des scénarios qui sont pas forcément très compliqués ou intéressants. À titre d'exemple, en comparaison, j'avais essayé Langrisseur, qui était un des grands concurrents des Shining Force à l'époque, sur mobile. Et les maps, elles font quoi, 20 cases, 30 cases. C'est comme les Fire Emblem aussi sur mobile. C'est une toute petite map avec des combats simplistes. Et en fait, c'est juste un prétexte pour que tes personnages se tapent dessus. Sans pas vraiment de stratégie, en fait. Et c'est plus du leveling, du grinding et des opportunités pour acheter le dernier héros, la dernière arme qui tue et être super content quand t'as ton légendaire.
Surtout que ce jeu n'est pas vraiment marketé en Europe, c'est vraiment marketé au Japon. Alors, les gens qui se souviennent de Shining Force, il n'y en a pas beaucoup. Il fallait vraiment être un otaku qui faisait la queue à Junku et Tonkam. Mais donc, je pense que le marché en Europe n'est pas énorme. Ce qui fait que c'est un jeu qui va être peut-être principalement focalisé sur le Japon. Et donc, je ne serais pas surpris que ça soit gacha à gogo, puisque c'est un truc qui est très fréquent chez eux et avec lequel ils ont l'air d'avoir beaucoup moins de problèmes que nous ici. Donc, ouais, mais c'est Shining Force, ça sera, j'imagine, un jeu gratuit, donc peut-être à tester.
Moi, je l'essaierai de toute façon, c'est sûr. Mais surtout, s'il marche bien, j'ai une vague lueur d'espoir que peut-être un jour ils sortiront un jeu sur une console.
Peut-être.
Un vrai jeu qu'on paye 49,99 ou 59,99 et qu'on peut garder où on n'a pas besoin d'acheter un million de trucs pour pouvoir y jouer.
Peut-être. Quoi d'autre ? On va passer maintenant aux rumeurs. Alors, il y en a deux intéressantes. Il y a la rumeur à la QuakeCon 2021, qui a lieu évidemment en ligne, qu'il y aurait, c'est ce week-end, qu'il y aurait une nouvelle version de Quake, un Quake revitalisé qui est apparu sur le planning de la QuakeCon et qui serait géré par Machine Games, qui avait repris Wolfenstein avec énormément de talent et du coup peut-être une nouvelle version. Alors on ne sait pas si ça serait genre un remake ou un remaster ou carrément un nouveau jeu. Et moi évidemment j'aimerais avoir un nouveau jeu clairement parce que quand on a vu ce qu'ils ont fait avec Wolfenstein, ben on pourrait espérer quelque chose d'incroyable pour un nouveau Quake, mais il est très probable que ça soit un remaster ou un remake. Et puis l'autre rumeur, c'est un remake ou un remaster de la série des Grand Theft Auto 3. C'est 3 Vice City et San Andreas qui arriverait cette année, je crois, sur bon, toutes les plateformes. Sauf la Switch, mais sur mobile. Ah si, si, sur Switch aussi, pardon. Sur Switch aussi et sur mobile. Donc, bon, ça serait peut-être pas un remaster super méga ambitieux, mais bon, moi, j'étais pas spécialement fan de GTA 3 à l'époque, mais je sais que ça parle à beaucoup de gens. Donc, il y a des gens qui auraient très, très hâte de refaire le jeu. Ça serait intéressant de voir ce qu'ils vont changer aussi s'ils le refont, parce qu'il y a des trucs qui étaient peut-être qui faisaient juste lever un sourcil à l'époque qui aujourd'hui seraient peut-être un petit peu moins acceptables, je sais pas. Mais entre Quake et Grand Theft Auto, il y a des choses qui te parlent, Dani, pour des remasters ou des nouveaux jeux?
Alors, pour moi, j'espère vraiment que Grand Theft Auto va se vendre à millions. Pourquoi? Parce que ça peut-être ouvrir la porte à un remaster de Red Dead Redemption. Et mais ça me parlerait direct.
Ça, c'est quelque chose qui est en rumeur aussi. Le premier Grand Theft Auto serait lancé, comme tu le dis, si cela fonctionne. Donc, en gros, tu vas aller en acheter 10 copies. Toi qui ne payes jamais les jeux, tout l'argent que tu as économisé, voilà, c'est ça. Tu vas aller le mettre dans les... Très bien.
Avec les versions collectors en plus, avec la gourmette en or et le flingue. Exactement. Et le faux flingue doré, voilà.
Thomas nous dit que ça vient d'être entre guillemets annoncé par l'ISRB, le truc de Quake, mais on sait toujours pas si c'est un nouveau ou un remake avec un nom comme revitalisé. Ça va pas être un nouveau titre. Un nouveau titre, il l'appellerait Quake tout court. Donc, à voir. Et enfin, je voudrais vous faire une série de petites news. Tu m'arrêtes, Dani, s'il y a un truc qui te parle, et je vais lire toute une série de petites news. Donc d'abord, un truc assez marrant. Vous connaissez le compte Twitter Can You Pet the Dog? Eh bien, ils ont regardé au lancement de Hades sur PlayStation et Xbox. Ils ont regardé les achievements pour voir. Il y a un achievement quand on caresse le chien dans Hades. Ils ont regardé sur les premières 24 heures combien de gens avaient eu l'achievement sur PlayStation et sur Xbox. C'est en pourcentage. Eh bien, sur PlayStation, il y a 14% des gens qui ont caressé le chien. Et sur Xbox, seulement 2,78%, moins de 3%. Peut-on conclure que les fans de PlayStation, les joueurs PlayStation, sont des gens bien plus affectueux que les joueurs de Xbox? Je ne sais pas. Mais c'est quand même une différence intéressante, quoi. De 3% à 14%, je ne sais pas si c'est... Enfin, il faudrait faire une étude sociologique sérieuse sur ce genre de choses. Moi, je trouve que ça m'a vraiment marqué.
C'est monumental et c'est peut-être lié aussi à la répartition géographique des acheteurs de PS5 et de Xbox, je ne sais pas.
Ah, les Américains sont plus méchants.
Je ne dirais rien là-dessus. Mais il y a aussi une stat qui est très, très intéressante. C'est surtout que 99,99% des possesseurs de PS5 uniquement sont plus beaux que les gens qui ont une PS5 et une Xbox.
Oui, mais ceux-là, ceux qui n'ont qu'une PS5 ont également moins de cheveux. Donc, à choisir.
Ils n'ont pas accès au Game Pass non plus. Donc ouais,
c'est bon, ça. Écoute, c'est ça. Alors, il y a encore eu une histoire avec Abandoned, le jeu qui est avec des rumeurs complètement folles sur le fait que ça soit un truc de Hideo Kojima. Le trailer enfin, l'application PS5 est sortie et le trailer qui n'a pas été disponible pendant 2 jours, alors qu'il était censé arriver à ce moment-là, le trailer qui est en fait une sorte de mini-démo, quand il a enfin été disponible, je ne plaisante pas, c'était 4 secondes d'une personne qui marche dans le noir. 4 secondes après tout ça. Et évidemment, les pauvres gens de Blue Box se sont encore fait harceler. Hassan Karaman n'en peut plus. Mais en même temps, il faut avouer que là, ils jouent un peu avec le feu, quoi. Ils annonçaient un truc incroyable pour une cinématique en jeu de 4 secondes. Faut pas déconner, quoi. À un moment, tu deviens responsable de ton truc aussi. Bon, bref, voilà, c'est déjà trop en parler que de dire juste ça. À propos de Xbox, saviez-vous que l'interface Xbox allait bientôt arriver en 4K, allait passer en 4K ? Et à cette occasion, j'ai appris que l'interface Xbox n'était pas déjà en 4K. Je parle de la série X, bien sûr. Donc, je suis curieux de voir si ça va changer quelque chose. Je ne savais pas qu'elle n'était pas en 4K. J'imagine que c'est la même chose sur PlayStation 5. Peut-être qu'elle n'est pas en 4K déjà, mais moi, je n'ai même pas vu la différence. Donc, les gens qui disent la 4K, ça ne veut rien dire. Eh bien, on n'a peut-être pas si tort que ça. Est-ce que tu as vu le nouveau mode Imposters de Fortnite ?
Disons que j'ai un peu probablement 3 à 4 fois l'âge moyen du joueur de Fortnite, donc non, j'ai pas du tout regardé, mais...
Eh ben écoute, c'est un mode Among Us, sauf que le mode Among Us de Fortnite, qui s'appelle Imposters, a beaucoup fait grincer des dents les développeurs de Among Us, justement, parce que au début, j'ai vu leur plainte et je me suis dit, bon, bah, ça va les gars, vous avez un jeu qui a été inspiré du jeu de société Werewolf. Enfin, tout le monde copie tout le monde dans le jeu vidéo, c'est comme ça que ça marche, c'est comme dans la mode, dans la cuisine. Tu peux pas copyrighter des trucs ou difficilement, donc c'est de bonne guerre. Et en même temps, quand j'ai vu à quel point il y avait zéro effort dans le mode de Fortnite, ils ont vraiment pris un papier à décalquer, ils ont recopié exactement tout, même dans la structure des niveaux. C'est exactement ça, mais exactement, et ils n'ont pas du tout fait d'effort chez Epic, donc je comprends que ça les fasse un peu chier au niveau de...
Ah, surtout qu'ils ont les moyens de faire un vrai développement correct, tu vois, c'est pas un indé qui a 2,5 € sur son compte, donc...
Et donc, ça fait ils auraient pu faire une collaboration, comme le disait, c'était Victoria Tran, je crois, la développeuse, ils auraient pu faire une collaboration ou faire quelque chose. Et en même temps, Fortnite, c'est... Moi, je ne serais pas surpris qu'il y ait un truc qui se passe derrière. Genre, ils vont mettre des skins, des quelque chose de mangueuse pour dire genre, OK, merci, vous êtes cool, pour leur envoyer un peu de sous. Parce que c'était quand même un gros bad buzz pour Epic, qui se pose en défenseur du petit et du dev indépendant. Alors déjà qu'ils ont, ils doivent leur succès au mode Battle Royale qu'ils ont entièrement pompé de PUBG, ce qui est encore, c'est de bonne guerre. Hein, dans le game design, il n'y a pas de copyright, donc c'est tout le monde le fait. Mais là, ça fait un peu bad buzz. Donc bon, on verra. Rocket League a eu une update graphique va recevoir une update graphique sur PS5. Et moi, j'étais un petit peu genre, mais enfin. Parce que l'update graphique, c'est qu'on peut choisir 4K. Il y a un mode performance ou un mode qualité. C'est ça, en fait. Et le mode performance tourne en 120 FPS. Et le mode qualité tourne en 60 FPS, tous les deux en 4K. Bon, c'est tous les deux en 4K, donc ça va. Mais je me dis, si un jeu comme Rocket League ne peut pas tourner à fond, avec tout à fond, sur PlayStation 5, mais mon Dieu, est-ce que ces consoles seraient-ce une arnaque ? Bon, après, vous allez voir la vidéo que j'ai faite avec les Duplo, donc, et vous savez pourquoi ça se passe de cette manière. Ils poussent les potards à fond, mais quand même, ça m'a surpris. Cyberpunk a aussi eu des patchs, enfin le patch 1.3, qui inclut des... DLC, alors les DLC, c'est des trucs à dingue.
Des skins. Hein,
ouais, c'est... ce genre de choses, bon. Life is Strange Remastered Collection est repoussé à l'année prochaine. Et Life is Strange True Colors, je crois, n'arrivera pas sur Switch non plus au moment de la sortie sur les autres plateformes, malheureusement. Et Lone Echo 2, qui est un petit peu le porte-étendard de la réalité virtuelle, est également repoussé. Donc, il arrivera un petit peu plus tard, l'année prochaine, je crois. Je précise, True Colors reste à sa date de sortie, qui est en septembre, je crois, sauf sur Switch. Donc, celui-là, il reste là. Et puis, j'ai une question business à te poser, Dani. Est-ce que tu connais Embracer Group ?
Non.
Ça ne dit rien ? C'est un studio, enfin, je ne sais pas, une holding de studios qui rachète depuis 2 ans des studios à tour de bras. La dernière fournée, c'est 8 studios rachetés. 8 studios il y a 2 semaines et
c'est
3 de plus...
THQ, il me semble.
Je crois pas que c'est THQ, Embracer. Peut-être. Tu sais, il y en a tellement, je sais même plus.
Ouais.
Je sais plus. Et donc, ils ont racheté encore 3 studios. Ils ont aujourd'hui 80 studios avec 8000 employés. dans 40 pays. C'est un truc, et c'est vraiment une société, alors je suis sûr qu'elle existe depuis plus longtemps, mais c'est une société qui s'est vraiment lancée dans le jeu vidéo il y a 2 ans peut-être, et je suis pas sûr, enfin ça doit être parce qu'ils voient une opportunité de croissance dans le domaine du jeu vidéo, mais 80 studios, pourquoi ils continuent à en acheter? Je veux dire, t'en avais 70, c'était pas suffisant. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils vont réorganiser ça? Est-ce que... on nous confirme dans la chatroom que c'est les mêmes, c'est eux qui ont acheté THQ Nordic. Mais THQ Nordic, c'est plus THQ, donc enfin bref, mais ils ont les licences.
Non, ouais. mais ils ont encore les licences.
Ouais. Mais du coup, 80 studios, est-ce que... Genre, ils vont se dire, ah non, 80, c'est pas mal, mais ils nous en font encore 10 de plus. Là c'est généralement, j'essaye de bien comprendre et de pouvoir analyser les mouvements dans l'industrie. Là, j'avoue que, autant il y a un an, ils disaient, bon, ils rachètent des dizaines de studios pour se constituer un gros portfolio et une force de développement conséquente. Là, ils ne s'arrêtent pas. 8000 employés, enfin... Je sais qu'il y a des développeurs qui ont ce genre de quantité. Hein. Si on parle de Ubisoft, par exemple, c'est des centaines. Enfin, rien que sur Assassin's Creed, c'est plus de 1000 employés qui travaillent dessus, si on compte tous les départements. Mais je sais, est-ce qu'ils vont réorganiser le truc pour avoir quelques gros studios et puis des plus petits? Est-ce qu'ils... je sais pas, je comprends pas ce qu'ils font Embracer, en fait. Enfin, en même temps, ils font de l'argent, c'est sans doute ça, mais...
De synergie, de consolidation et d'approche ensuite de marché, parce qu'ils ont un poids suffisamment conséquent pour pouvoir influencer les règles en leur faveur. Et chose que tu peux pas faire, c'est un petit studio indépendant, tu vois, tes capacités de négociation sont faibles.
Ouais, mais 80.
Alors là, ils en ont 80, c'est gros. Mais par contre, c'est surtout en complexité de gestion de 80 studios, j'imagine même pas à quel point ça doit être difficile et complexe. Et donc, ouais. Je suppose qu'à terme, il y aura peut-être une consolidation pour en avoir peut-être pas 80, mais 10 ou 15 consolidés avec les synergies nécessaires pour que chacun d'entre eux bénéficie des ressources des autres.
Peut-être, ouais. J'imagine qu'ils ne vont pas rester à 80 studios indépendants, quoi. J'imagine qu'ils vont consolider à un moment, faire au moins un ou deux grands studios pour faire des jeux AAA, parce que c'est même pas... j'imagine... Enfin, il y a des studios qui font des jeux mobiles, mais ce n'est pas que ça. Limite, des jeux mobiles, tu peux te dire, on en fait plein, et puis il y en a un qui marche, et on met à fond dessus sur les 10 qu'on sort par an. OK, mais c'est des développeurs de jeux traditionnels. Et ça, ouais. Ça ne marche pas de la même manière. Donc, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire, quoi.
C'est intéressant.
Et enfin, un petit mot sur l'histoire qui continue de harcèlement. On a d'une part une pratique que je ne connaissais pas, mais qui va bien vous faire vomir aussi, c'est le hate raid. C'est un article du Washington Post qui détaille ça. C'est des raids sur Twitch qui sont là pour cibler des personnes marginalisées. C'est-à-dire qu'avec les tags qu'on a désormais sur Twitch pour taguer les streams qui vont pouvoir identifier des personnes dans des minorités pour leur donner plus de visibilité, bah avec ça, il y a des gens qui sont allés cibler ces personnes en les trouvant par ce moyen pour faire des raids où ils vont envoyer des dizaines, des centaines de personnes pour les insulter. Donc... super.
Mais ça leur apporte quoi de faire ça, en fait
Si ça rapportait quelque chose de propager la haine sur Internet, il y a des gens qui seraient très riches. Hein, je sais pas.
Ouais, mais à la limite, si ça rapportait de l'argent, je pourrais comprendre, tu vois, dire « Bon, bah, je suis un gros con, mais au moins, je l'assume, tu vois. » Mais là, juste faire... Enfin, je vois...
Oui, c'est on est d'accord.
Je sais même pas quoi dire. Voilà.
Moi non plus. Donc, on va passer à la suite. Ubisoft Singapour a été visé par une enquête une enquête pour harcèlement sexuel. Visiblement, les choses continuent à être problématiques, au moins à Ubisoft Singapour. Riot Games a reçu un jugement en Californie qui a exigé qu'ils informent mieux leurs employés sur la possibilité de parler aux enquêteurs pour le procès similaire à celui de Blizzard. Et enfin... Pour Blizzard, on a des suites qui sont, on a des gens, des RH, qui ont contacté des gens de Blizzard, qui partageaient des contenus relatifs à A Better ABK, vous savez, le groupe qui vise à unifier les employés pour porter leurs demandes devant la direction, il y a des recruteurs, enfin des gens, des relations humaines, des ressources humaines, donc qui recrutent des gens pour venir travailler dans la société, qui ont contacté ces personnes en disant « Hey, vous partagez beaucoup de choses sur comment ça va pas, du coup ça rend notre job super difficile. Est-ce que vous pourriez aussi partager des articles sur la manière dont on essaye d'arranger les choses? Ça serait cool. » Et des trucs genre... c'est un petit peu, à la limite, genre, bon, vous pouvez arrêter de vous plaindre. Enfin, bref, je vais vous laisser vous tirer vos conclusions là-dessus. C'est clairement pas vraiment acceptable. Là où il y a un revers de la médaille qui est peut-être positif, je crois, c'est que, pour le coup, ça montre que ça a un effet, toutes ces actions, et que ça touche quelque part à un truc qui peut avoir une influence sur le business, donc peut-être qu'il va falloir faire quelque chose. C'est la meilleure preuve que j'ai vue jusqu'à maintenant que le mouvement A Better ABK chez Blizzard Activision King a un effet. Alors un effet suffisant, un effet qui portera ses fruits, j'en sais rien, mais au moins a un effet, parce que ça, s'ils ne peuvent pas recruter les meilleurs candidats, parce que justement les candidats entendent de tous les problèmes qu'il y a chez Blizzard et que ça leur fait peur, et ben c'est un effet dont le management doit prendre compte. Donc c'est peut-être la bonne partie, comment dire, le bon aspect de toute cette histoire. Et voilà, on conclut là-dessus cet épisode qui a été extrêmement agréable parce que j'ai pu passer un moment avec mon ami Danny. C'était évidemment un moment précieux que je chérirais jusqu'à la fin de mes jours. Danny, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet, puisque malheureusement, notre temps ensemble se termine, mais... le temps de Dany, votre temps avec Dany peut continuer si vous allez le trouver sur Internet.
C'est très simple, je suis sur Twitter et mon handle c'est @notdany, N-O-T-D-A-N-Y, comme d'habitude.
Exactement, très bien, Note Dany, le lien sera dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram, tous les réseaux, hein, Note Patrick. C'est Note Patrick sur Twitch, où on diffuse en direct le jeudi à midi et où on passe de bons moments avec la communauté. Et si vous souhaitez soutenir l'émission, vous savez que c'est sur patreon.com/rdvjeu et vous pouvez trouver le lien dans les notes de l'émission également. Venez avec nous dans la communauté des Patriotes. Franchement, on s'amuse bien, c'est super sympa, et je pense que vous pourrez passer de bons moments dans cette communauté chaleureuse et accueillante, en plus des deux bonus complètement accessoires, qui sont d'une part les bonus que vous avez dans les épisodes, les timecodes, l'absence de pub, les contenus bonus, etc. Et en plus de ça, le fait de pouvoir soutenir l'émission, c'est grâce à vous que cette émission existe, et vous pourrez avoir l'appartenance à la communauté des Patriotes qui est, je pense, un atout pour tout être humain. Je vous remercie tous de nous avoir écoutés. On va faire un petit after show où, dans le before show, pendant qu'on attendait Dany, qui était dans son meeting très important, on commençait à parler d'argent. Et donc, je me demande si on ne va pas faire un petit after show sur l'argent de Patrick et la fonction. Bon, je plaisante, mais en fait, comment fonctionne la société, le financement, tout ce qu'on fait. Peut-être qu'on va parler de ça. Ça pourrait être sympa. On va voir si les gens sont intéressés par ça dans l'after show ou autre chose. Hein, mais si vous avez des questions, ça sera dans l'after show pour ceux justement qui sont patriotes. Et si vous ne l'êtes pas, on vous donne rendez-vous dans une semaine. Je vous fais des grosses bises à tous et à toutes. Ciao, ciao.